Radio Okapi.
Un éboulement de terre fait 15 morts au port de moteur dans la commune urbano-rurale de Dibayaloubwe, territoire d'Idiofa, dans le Kwilu. Un bilan encore provisoire. Une colline surplombant le port s'est affaissée à la suite de la forte pluie tombée sur la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Le député national Dédé Moupassa Lukobo, élu d'Idiofa, lance un appel à l'aide pour les victimes. Une délégation de l'Union européenne à Goma pour évaluer les besoins des déplacés en vue d'une éventuelle assistance. La mission conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne a annoncé avoir déjà rendu disponible une aide équivalente à 70 millions d'euros. Giuseppe Angelini, responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale, s'inquiète tout de même du retrait de la MONUSCO qui risquerait d'entraîner des conséquences humanitaires. Robert Barushimana Kamihano est l'invité de ce journal. Il est le directeur provincial de la Direction générale des impôts, DGI Maniema. Bonjour à tous. À la présentation de ce journal, Noëlla Luzitu Kabambi. 15 corps sont jusque-là tirés des décombres d'un éboulement des terres survenu hier samedi au port de moteur dans la commune urbano-rurale de Dibayaloubwe, territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu. C'est à 700 km de Kinshasa. C'est à la suite de la pluie qui s'est abattue sur cette commune dans la nuit de vendredi à hier samedi. Difficile pour l'instant d'établir un bilan définitif car certains corps seraient encore sous les décombres. Le député national Dédé Moupassa, élu d'Idiofa qui donne l'information, lance à l'occasion un appel de solidarité en faveur des victimes. Il sollicite l'intervention des pouvoirs publics et des hommes de bonne volonté. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matwaki.
Il y a un port moteur. C'est un port où accoste tous les pêcheurs chaque samedi qui vient vendre qui du poisson et en retour qui achète un peu de savon pour repartir dans leur campement de pêche. Mais il se fait que ce port-là est situé à un endroit tel que il y a une colline au-dessus du port et avec la pluie qu'il y a eu depuis hier et surtout ce matin, il y a eu éboulement et toute la terre de cette montagne s'est effondrée et que là-dessous, il y a pas mal de population. Je vous dis, c'est un marché. Et il y a de ceux où on ramasse un pied, l'autre la tête. Donc il n'y a pas de secours qui peut identifier exactement où sauver les vies parce que c'est possible qu'il y ait encore ceux qui traversent la vie là, sous ces décombres. Donc c'est comme ça que nous lançons l'appel au gouvernement.
Dans le Tanganyika, c'est une tête d'érosion qui menace la prison centrale de Kalemie depuis plusieurs semaines. Cette érosion est désormais à quelques mètres du mur de clôture de la prison. Le pont jeté sur la rivière Kalemie et qui est l'unique voie d'accès à la prison s'est affaissé à la suite du glissement de terrain. Mais les travaux pour mettre fin à cette menace qui guette la prison traînent. Un reportage de Paul Amunanga.
La rivière Kalemie est en parallèle à la prison centrale de Kalemie. C'est de cette rivière que partent des érosions qui menacent la prison. Les pluies abondantes de ces derniers temps occasionnent des glissements de terrain. Lentement, ces érosions s'avancent vers les murs de clôture de la prison. D'après les responsables de cette maison carcérale, le 10 avril dernier, suite à des érosions occasionnées par des pluies abondantes, le pont construit par la MONUSCO a fini par s'affaisser. Actuellement, une tête d'érosion s'attaque à l'énorme fosse septique construite aussi par la MONUSCO. Pour les ministres provinciaux des infrastructures du Tanganyika, les travaux pour réparer tous ces dégâts et construire un nouveau pont traînent. D'après John Seakalunga, l'IGF en province qui doit autoriser la sortie des fonds traîne les pieds.
Nous avons voulu être les plus transparents possible en demandant à l'inspection générale des finances de pouvoir suivre de bout en bout pour qu'il n'y ait pas de suspicions de mégestion. Mais moi je pense que nous sommes un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Peut-être qu'ils suspectent que nous risquons de prendre l'argent et partir, mais c'est irresponsable ça. Mais dans l'expédition des affaires courantes, il y a les urgences aussi qu'il faut assurer. Et on ne peut pas abandonner la population à son triste sort.
Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Une délégation de l'Union européenne en mission à Goma pour palper la situation des déplacés internes dans différents sites des déplacés situés aux alentours de Goma. Dans une conférence de presse tenue hier samedi à Goma, cette mission conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne a annoncé avoir déjà rendu disponible une nouvelle aide humanitaire évaluée à 70 millions d'euros. Giuseppe Angelini, responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale, basé à Bruxelles, se dit toutefois inquiet du retrait de la MONUSCO qui, selon lui, risquerait d'entraîner des conséquences humanitaires. Il l'a dit au micro de Bernardine Diambou.
Cette année, on démarre avec 70 millions d'euros et probablement on fera plus en cours d'année. Par rapport à l'énormité des besoins, quelques gouttes dans la mer, il n'y a jamais une solution humanitaire à un problème humanitaire. Ça, je le répète tous les temps. Les problèmes sont immenses dans tous les secteurs. La protection des civils, la sécurité alimentaire, l'eau et assainissement, la santé, la logistique, la situation des violences de genre et sexuelles dont sont victimes pour la plupart les populations déplacées, ce sont tous des secteurs qui nous préoccupent. Les départs de la MONUSCO pourraient avoir des conséquences si elle n'est pas bien préparée en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger des violences, en réduisant l'espace humanitaire parce que l'insécurité pourrait augmenter, en soutien des populations civiles pourrait être réduite, et aussi en termes d'infrastructures et de logistique.
Toujours au Nord Kivu, montée de l'insécurité dans la ville de Goma, Karline Zanzu Kasivita condamne tous les actes criminels perpétrés à travers la province, spécifiquement dans la ville de Goma et ses environs. Pour cet élu de Beni, les stratégies de l'ennemi sont mises en marche pour consacrer la rupture entre la population et les autorités politico-administratives. Il demande aux forces de défense et de sécurité de tenir compte du contexte du moment, tout en redoublant d'efforts afin de sécuriser la population sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Karline Zanzu Kasivita est au micro de Bernardine Diambo.
Les autorités administratives de la province et de la ville de Goma doivent multiplier les efforts pour s'assurer que les mesures de discipline de nos éléments de force, de défense et de sécurité est assurée. Elles doivent en même temps interdire la circulation des armes incontrôlées dans la ville de Goma, parce que nous constatons ces derniers temps des actes de criminalité, des actes de règlement de comptes, des cambriolages, des tueries qui ne disent pas leur nom, on ne sait pour quel compte. Nous souhaiterions que les autorités politico-administratives puissent renforcer le mécanisme de la gouvernance sécuritaire de proximité. Et cela veut dire qu'il faut multiplier les réunions dans les quartiers, faire participer la population dans le cadre de la sécurité collective. Que notre population puisse continuer à soutenir les efforts fournis par la République pour rétablir définitivement la paix dans la province du Nord Kivu et plus spécialement la sécurité dans la ville de Goma.
Notez que plusieurs cas de tuerie, enlèvement, vol et autres braquages ont été encore enregistrés ces quatre derniers jours dans la ville de Goma. Dans le territoire de Beni, trois personnes ont été blessées par balle la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Vimbwembwe de la commune rurale de Boulongo, située à 40 km de Beni sur l'axe Kasindi. Les victimes ont été conduites dans un centre médical. La nouvelle société civile du secteur de Rwenzori pointe du doigt des éléments des FRDC affectés dans cette zone il y a un mois. Elle rapporte que des téléphones portables et de l'argent sont extorqués par ces soldats. La nouvelle société civile du secteur de Rwenzori dit craindre que ce comportement n'affecte les relations entre les civils et les militaires. Elle appelle les responsables militaires à tout mettre en œuvre pour que les militaires auteurs de ces forfaits soient sanctionnés. Meleki Mulala est au téléphone de Marc Marofimbo.
Les responsables des différentes unités doivent voir comment travailler sur la manière de faire de nos jeunes militaires récemment affectés à Boulongo, même à Mutwanga, parce que nous avons beaucoup souffert et cette population a beaucoup traversé. Ce n'est pas encore le moment de les traumatiser et maltraiter, mais c'est le moment de les conscientiser, le moment de les donner le courage de vivre ensemble, à cohabiter avec les militaires. En tout cas, c'est le moment de renforcer notre mariage civilo-militaire qui était vraiment compliqué la fois passée. Et ces gens-là sont connus par les victimes. Ils doivent être traqués dans différentes unités pour qu'ils soient punis conformément aux lois militaires, pour décourager d'autres éléments qui se donnent le courage même d'ériger des barrières à pleine cité, aux environs de Mutuanga pour rationner la population, mais aussi multiplier des séances de sensibilisation de nos militaires parce que ce sont des nouvelles unités.
1600 anciens délinquants qui semaient les troubles un peu partout dans le pays, surtout dans la ville de Kinshasa et ses environs, sont devenus bâtisseurs de la nation, comme on les appelle. Partis en formation au service national à Kanyamakassese dans l'espace Grand Katanga, ils ont reçu leur brevet hier samedi au centre d'encadrement et d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Kanyamakassese. Après 2 ans de formation, le commandant du service national a indiqué à ces anciens délinquants qui seront déployés à travers le pays entre autres à Kinshasa. Ils vont y réhabiliter l'hôpital général de Kintambo, par exemple. À cette occasion, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a exprimé sa gratitude au président de la République pour avoir notamment mis à la disposition du service national tout ce dont il avait besoin pour cette formation. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
Président de la République.
Le président de la République, Fatih Beton, m'a demandé si j'étais sûr que vous avez changé. Avez-vous changé? Oui, nous avons changé. Avez-vous changé? Oui, nous avons changé. Nous le verrons par vos actes. 2 ans au centre d'encadrement et d'instruction, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la formation, pour l'encadrement. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à la fin. Aujourd'hui, vous allez recevoir vos brevets. Félicitations à vous tous. Vous aurez vos affectations et dès aujourd'hui, vous serez dotés de vos besaces, des tenues et de tout ce dont vous aurez besoin. Vous allez plier vos bagages aujourd'hui même. Le pays a besoin de vous. Allez dans vos nouvelles affectations pour y travailler.
Pour leur part, les anciens Kuluna disent se réjouir de l'encadrement dont ils ont bénéficié. En plus de leur brevet, ils sont également matriculés, devenant ainsi des agents et fonctionnaires de l'État congolais à part entière. Procès des 3 agents de la CENI accusés d'avoir facilité la fraude électorale dans le territoire de Massimanimba, province du Kwilu. La défense a relevé le défaut de qualité dans le chef de la personne qui a saisi le parquet pour le compte de la centrale électorale. Ses avocats ont exigé la procuration spéciale du président de la CENI qui donne mandat à l'accusateur pour saisir le tribunal. Il y a aussi l'obscurité dans le libellé ainsi que la détention devenue irrégulière au parquet près du tribunal de paix de Massimanimba, disent-ils. Est renvoyé au 15 avril prochain. Maître Olivier Mbangala, avocat au sein du collectif des conseils du chef d'antenne de la CENI, incriminé le dit Ayrane Mboma.
Le premier moyen était le défaut des qualités du chef de la personne qui a saisi le parquet contre les agents de la CENI. L'article 25 de la loi organisant la CENI dit clairement que la personne habilitée d'engager le poursuite contre toute personne en aide de la CENI n'est que le président de la CENI. Comme le président de la CENI ne l'avait pas fait, il devrait envoyer quelqu'un muni d'une procuration. Cela n'a pas été le cas. Il y a eu encore un deuxième moyen qui était lié à l'obscurité dans les libellés. Quand l'organe de la loi après les gens en justice, ils n'arrivent pas à préciser qui a fait quoi. Il dit seulement que le prévenu était des co-auteurs. Nous avons posé la question en tant que co-auteurs, qui étaient les auteurs, et il n'a pas porté de précision de taille. Nous avons eu encore à discuter autour de la détention. Parce que arrêté, laissé en détention pendant plus d'un mois, sans aucune pièce de la détention, il défère le dossier au tribunal. Eh ben, il ne pouvait pas le faire autant parce que après 5 jours, il devrait prendre une ordonnance de mise en détention préventive et après il devrait présenter le prévenu en chambre du conseil pour que leur détention soit confirmée en cas de maintien. Mais c'est ce qui n'a pas été fait.
Pendant ce temps, au Congo central, les 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale sont désormais connus. Ils ont été élus hier samedi lors des scrutins qui se sont déroulés dans la salle de la plénière sous la coordination du secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central. Cette institution sera désormais chapeautée par le député provincial Papi Mantezolo Diatezoa, élu président de l'Assemblée provinciale. Nana Plurich Mambo pour le reportage.
Papi Mantezolo Diatezwa a obtenu 23 voix sur les 39 votants. Il a battu ses adversaires, Maître Arli Koutidikese et le président du bureau provisoire Thomas Yobila Banzenza, qui ont obtenu respectivement 15 et une seule voix. Est élu vice-président avec une majorité écrasante de 38 voix sur 39, le député provincial Joseph Nsalambinga Bankita. Les députés provinciaux Victor Onswami et Bilintunga sont respectivement élus rapporteurs et rapporteurs adjoints. Le poste du questeur est occupé par le député Omega Mbadou, fils de l'ex-gouverneur du Congo central, feu Jacques Mbadou Situ Dimavungu. Signalons que sur les 40 membres qui composent l'Assemblée provinciale du Congo central, 39 ont été présents à ce scrutin et un seul s'est excusé. Ces membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale élus ce samedi seront installés le mercredi du 8 avril. Et ce même mercredi sera le début de la campagne pour l'élection des sénateurs, comme le prévoit le calendrier électoral publié par la CENI. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'attaque au couteau qui a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial de Sydney a été perpétrée par un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale, rien ne suggérant un éventuel motif de terrorisme. L'agresseur Joël Cochet a été poursuivi et abattu par une policière. 12 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont un bébé de 9 mois qui se trouve dans un état grave mais stable. Selon la police, sa mère, elle, a succombé à ses blessures, ce qui fait que ce sont 5 femmes et un homme qui ont été tués.
L'invité.
L'invité du journal, c'est le directeur provincial de la Direction générale des impôts DGI Maniema, Robert Barushimana Kaimano. Après sa participation à Kinshasa au séminaire des directeurs provinciaux, il a organisé une séance de restitution de ses assises qui avait pour thème principal les stratégies et actions à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. Le directeur provincial de la DGI Maniema, Robert Barushimana, s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Robert Barushimana Kaimano, bonjour.
Bonjour, journaliste.
Monsieur le directeur, après avoir participé aux assises de Kinshasa, réunissant tous les directeurs provinciaux des DGI, aujourd'hui, dans la salle Saint-Joseph, avec vos cadres et agents, dans une grande réunion, pourrons-nous savoir c'était quoi au juste?
Merci beaucoup, Nel, de la Direction provinciale des impôts du Maniema, représentée ici par les agents qui sont au siège de la direction, mais également au bureau de CIS Kindu. Nous avons passé en revue, après ma mission de service que j'ai effectuée à Kinshasa, du 12 au 16 mars dernier, nous avions une grande réunion des directeurs des impôts pour évaluer les actions qui ont été menées en 2023, mais également qu'on puisse monter des stratégies pour la mobilisation des recettes pour l'exercice 2024. Il a été question pour nous de pouvoir restituer au personnel la matière qui a été abordée, mais également les résolutions qui ont été prises par rapport à nos services. Et nous avons échangé sur les stratégies que nous devons mener au courant de cette année pour atteindre les assignations conformément à la loi de finances 2024.
Oui, en ce qui concerne les assignations, est-ce possible de connaître la hauteur de vos à la Direction provinciale des impôts du Maniema et aussi les stratégies mises en place pour atteindre ces assignations?
Oui, nous avons des assignations annuelles, nous avons également les assignations mensuelles. Nous avons à chaque mois des assignations que nous recevons de la haute direction et elles sont fixées par la haute direction conformément à la capacité contributive de notre direction. Pour l'instant, nous avons eu à échanger sur les résolutions et les résolutions qui ont été abordées ont pris en compte tous les besoins qui ont été identifiés au courant de l'année 2023 et qui pourront être reportés au courant de l'année 2024. Ce sont des besoins en matière de ressources humaines, en matière financière. Nous avons pensé également que nous puissions monter des stratégies en matière de l'assiette de l'impôt, du recouvrement de l'impôt et même du contentieux. Nous avons pensé utilement que nous devons mettre à profit également les autorités pour qu'ils puissent contribuer à la mobilisation des recettes à la DGI à travers certaines actions qui devront être menées au niveau du gouvernement, tant au niveau du ministère des Finances, qui est notre ministère de tutelle, qu'au niveau du ministère de la Justice par rapport au dossier des huissiers du Trésor.
Au-delà de ces stratégies, vous avez parlé d'un fait aussi important qui paraît être nouveau au sein de la DGI, c'est les CASO. C'est quoi son objectif?
Oui, nous avons parlé de, en ce qui concerne les ressources de la Direction générale des impôts, outre les rémunérations qui sont payées à nos agents, nous avons pensé échanger avec le personnel de la Direction provinciale des impôts du Maniema sur un élément très important en rapport avec le social. Parce que la Direction générale des impôts a mis sur pied un mécanisme de la gestion de la question des agents. Chaque fois quand il y a retraite, quand il y a décès, quand il y a démission, ou même quand il y a révocation, les agents cotisent dans leur moment d'activité à travers les retenues qui sont effectuées sur leur bulletin de paye, de manière à ce qu'ils puissent constituer des réserves qui pourront être utiles au moment où ils seront à la fin de leur carrière. Nous saluons les efforts de la délégation syndicale de la Direction générale des impôts qui a bien travaillé sous la houlette de monsieur le directeur général des impôts ainsi que tous les staffs pour qu'on puisse arriver à cette caisse de solidarité. Et cela va soulager en tout cas la situation de nos agents qui partent en retraite. D'autres entreprises et services publics avaient déjà commencé à pouvoir réfléchir sur cela. Et nous aussi, en tant qu'agents publics de l'État, il y a des mécanismes internes qui sont mis en place, mais spécialement en ce qui concerne la Caisse de solidarité nationale. Elle est à pied d'œuvre, ça fait déjà 2 ans que les cotisations sont en train d'être effectuées.
Robert Mbarishimano Kaimano, je rappelle que vous êtes le directeur provincial de la DGI Maniema. Merci.
Merci.